Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à bien vivre le vôtre. Je suis toujours en compagnie de Vanessa Musset, on a commencé ce deuxième épisode sur l'épanouissement professionnel et dans ce deuxième épisode nous allons parler de comment passer d'un management de masse à un management de la singularité et surtout pourquoi est-ce que c'est aussi important d'y réfléchir en ce moment ? Vanessa.
Oui.
Est-ce que, déjà, tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que la singularité ?
Oui.
On s'embarque sur ce sujet-là.
Alors, singularité, unicité. En fait, je crois beaucoup à l'individu, mais dans son un, dans son unicité. C'est-à-dire que on peut se ressembler, on peut avoir des points communs. Tu évoquais tout à l'heure la notion de HPI. On sait que même deux HPI qui se ressemblent vont avoir un spectre de couleurs différents. On met deux rouges à côté et on va pouvoir percevoir de la différence. Mmh. Donc la singularité, c'est ça. C'est dans quelle mesure l'individu possède une identité à part entière, un ADN à part entière. Mais derrière cet ADN, ça inclut toutes ses forces, mais également ses particularités, voire ses handicaps. J'utilise beaucoup le mot handicap en entreprise parce que ça permet aussi d'être fier de cette différence.
Okay.
Je trouve que c'est ce qui fait notre signature.
Les handicaps, ça permet d'être fier de cette différence, tu veux dire quoi
autant,
par là, en fait ?
Autant que les forces. C'est-à-dire que c'est ce qui fait notre signature. On devrait être fier de ce qui nous amène à réussir comme ce qui nous ralentit. Parce que si on est fier, on arrive à l'exprimer, à le dire, à le mettre en avant comme quelque chose de normal. Et si on est en fauteuil roulant, on ne demande pas à la personne d'aller courir un marathon.
Ouais.
C'est aussi simple que ça. Donc si on met en avant un handicap, quel qu'il soit, alors il n'y a pas que le handicap physique. Hein. Moi je dis souvent, je suis une handicapée de l'humour, hein. Je dis ça en entreprise. J'ai une forme d'humour, mais il y a plein de formes d'humour que je n'utilise pas, tout ce qui touche au cynisme ou à l'ironie. Je vois tout de suite la colère qu'il y a derrière ou le côté non traité chez la personne qui utilise l'humour pour faire passer du message. Mais plutôt que de faire perdre la face à la personne, je préfère dire que c'est moi qui suis handicapée de l'humour.
Voilà. Okay.
Donc, on ne devrait pas avoir de soucis à dire là où on est bon et là où on ne performe pas, quoi, et c'est ok.
Tu dis aussi qu'aujourd'hui, nous sommes tous centrés, c'est-à-dire dans le monde du travail, mais qu'il y a aussi un triangle intérieur.
Ouais. Je te vois faire la grimace, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Alors, ça rejoint à pourquoi on doit passer d'un management de masse à un management de la singularité. C'est-à-dire que le travail a été pensé autour de cette notion de rentabilité, avec un objectif économique. Principalement. Et donc on a 1000 collaborateurs autour de ça, mais le point de centrage, c'est cette rentabilité économique. Si on prend ce point de centrage comme un cercle, à l'intérieur, on peut y rajouter aujourd'hui une nécessité de centrer également, à l'intérieur de ce point de centrage, le client, qui est l'usager en fait de ce pourquoi on a une activité économique. L'objectif collectif.
Oui.
Et là, je vais prendre un exemple. Oui, on avait un objectif économique, mais aujourd'hui, on a de nouveaux objectifs, et notamment d'impact écologique, d'impact de création de valeur à l'intérieur de la société dans laquelle on vit. Est-ce que ce que l'on propose participe à la conception d'un monde meilleur, sans parler d'être écologique, mais est-ce qu'on participe à... Ça, c'est des nouveaux indicateurs qu'on n'avait pas à l'époque et qui font partie de ce centrage. Et puis le dernier, que j'ai considéré dans le premier podcast comme le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur.
D'accord.
Tout ça pour dire qu'une entreprise aujourd'hui ne peut plus être centrée uniquement sur sa rentabilité. Je dis bien uniquement, c'est-à-dire que si l'entreprise ne fait pas de rentabilité, on sait que le projet est mort. Donc il faut garder la rentabilité. Mais elle ne peut pas accéder à la rentabilité si elle ne tient pas compte de ses collaborateurs, de l'impact écologique, sociétale, et du consommateur final, de la relation qu'elle va proposer à son consommateur final. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Ok. Donc, on entre dans une ère de partenariat. Et dans cette phase de transition, il faut pouvoir rentrer dans la case traditionnelle, soit rentrer dans la case traditionnelle, soit être force de proposition.
Ouais. Alors là, tu fais le lien avec le marché du travail. En préparant le podcast, on s'était posé la question, c'est quoi le rapport que l'on a aujourd'hui par rapport au marché du travail? Et cette relation de partenariat, elle prend tout son sens. On voit qu'il y a eu des rapports de force entre l'entreprise et le collaborateur en demande d'emploi. Mmh. Beaucoup d'entre nous ont connu le rapport de force entreprise et puis collaborateur qui était dépendant. On a connu un peu l'inverse sur certains types de postes, comme les développeurs informatiques, par exemple, qui ont connu ce rapport privilégié. Aujourd'hui, tout ça est plus flou et l'idée est de vraiment mutualiser la relation de part et d'autre. Ça change un peu le rapport que l'on a avec le marché du travail et la manière dont on va se positionner sur le marché du travail. Soit lorsqu'on est à l'intérieur d'une entreprise, et ça on l'a évoqué dans le premier podcast autour de l'agentivité, soit tout simplement son rapport à la petite annonce ou comment on trouve un job en étant acteur de ouais. son mouvement.
Et si on revient à la singularité, pardon, mmh. et à mmh. l'unicité, comment est-ce que ça joue un rôle important aujourd'hui dans le management, et pourquoi c'est si important aujourd'hui de passer d'un management de masse, où, comme tu l'expliquais, c'est un peu le management dont on a hérité, en fait, oui. avec la naissance de l'ère de l'industrie, on est tous héritiers de cette époque-là, mmh. à un management de la singularité mmh. Et qui respecte l'unicité de chacun.
Les recettes managériales, elles étaient fondées sur des grands principes collectifs. Elles ont fait leur temps et ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, et surtout avec l'effet post-Covid, on voit à quel point on a envie d'autre chose. Et dans cette autre chose, on voit à quel point d'un individu à un autre, les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Si on prend l'exemple du télétravail, certains vont adorer travailler en télétravail, quand le collègue d'à côté va détester. Là, on revient à l'écologie personnelle, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne posait pas de problème à l'entreprise tant qu'il y avait de la rentabilité et tant qu'il y avait la capacité à recruter et à garder son collaborateur. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un gros principe de désengagement dans les entreprises, que c'est difficile dans certains métiers de recruter des profils alors que les personnes sont formées. On a même des profils qui recherchent du sens au travail. À un moment donné, on évoquait des épidémies chez les ingénieurs qui quittaient leur parcours diplômant ou post-formation, retrouvaient des métiers en lien avec l'artisanat. Donc, il faut complètement revisiter quand on est une entreprise sa relation à l'autre, sa relation au collaborateur. Et pour ça, en fait, ça nécessite de comprendre ce qu'attend l'autre et il faut que le collaborateur aussi explique ce dont il a besoin. Donc c'est cette notion de partenariat qui se met en place. Donc on ne peut plus manager une entreprise avec des grands principes collectifs. On tend à aller vers des principes adaptés à la personne que l'on a en face de nous. Et ça invite à recruter différemment également. C'est-à-dire qu'on est encore enfermé dans des périmètres de mission, des fiches de poste, des qualités, voilà, quelles sont vos trois grandes qualités, etc. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Les entretiens de recrutement se font sur la base de grandes conversations, d'idées partagées, de tests sur des projets. On voit bien qu'on s'éloigne de la fiche de poste qui est clivante, et qu'on tend vers
rigide,
voilà, et qui peut faire peur aussi, et qu'on tend à adapter en fonction du candidat qu'on a en face de nous. Et là où ça devient super intéressant, c'est que dès qu'on recrute à la singularité, ou dès qu'on manage à la singularité, on laisse place aux talents qui sont aujourd'hui invisibles dans l'entreprise. On laisse place à la personne de pouvoir s'exprimer pleinement pour atteindre le projet collectif. Donc ça nécessite effectivement un état d'esprit, des moyens, et puis la volonté d'y aller. Mais quand on manage à la singularité, quelque part, on supprime tous les enjeux qui sont liés à l'équité homme-femme, l'inclusion au niveau du handicap, etc. Tout ça, c'est plus un débat, en fait. On regarde la personne par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle nous propose par rapport au projet collectif que l'on propose.
Ses faiblesses.
Exactement.
Que tu évoquais tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ok. Donc, est-ce que on peut en déduire que c'est plutôt positif pour les profils atypiques?
Ah oui, carrément.
Ouais.
Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, les HPI, les profils ou les neuroatypiques au sens large, ont toute leur place en entreprise. Ont toute leur place parce que on est dans un monde qui s'est accéléré ces dernières années, mais qui continue de s'accélérer. Les codes sont brouillés. On voit les nouvelles générations qui arrivent avec des attentes qui sont perturbantes pour nous aussi. Hein. Donc, il y a un décryptage à faire. Et c'est là où il y a un champ des possibles qui est extraordinaire. Et il y a de plus en plus de place. Les entreprises, ça y est, ont compris qu'elles pouvaient miser aussi sur des profils singuliers. Mmh. Et que c'était OK. Et que ça avait énormément de valeur. À partir du moment où on sort d'un système... où c'est un système de production hyper cadré, en fait.
Ouais. D'accord, ok. Est-ce que pour illustrer ces propos, tu peux nous donner des exemples de singularité au travail,
oui,
s'il te plaît?
Alors, si on fait appel à sa biologie personnelle, par exemple, je vais donner un exemple qu'on peut citer notamment chez les TSA, enfin dans les troubles du spectre autistique, mais pas que. Certains vont aimer l'agitation et le bruit, donc vont tout à fait avoir la capacité de travailler en open space, et d'autres, c'est absolument pas possible, ils vont avoir besoin d'un univers super feutré.
Mmh.
Donc clairement, là, on voit bien que les personnes, elles peuvent réaliser des tâches équivalentes, mais dans un environnement, en fait, qui va être différent. C'est important que la personne puisse l'exprimer, et c'est important que l'entreprise puisse respecter ce rythme biologique qui est différent, par exemple.
D'accord.
Dans les phases de concentration, c'est pareil. Moi, je sais que je suis très du matin, mais je suis pas du tout de l'après-midi. Donc, je vais avoir tendance à travailler tous les matins, y compris le week-end, mais par contre, m'autoriser à ne pas travailler ou à faire des choses très différentes l'après-midi. Aller me balader, me ressourcer, rencontrer des gens. Donc, en comprenant comment je fonctionne, j'adapte
ton emploi du temps.
Exactement.
D'accord.
Et ça, en mode hybride ou en télétravail, ça devient de plus en plus facile aussi à faire. Mais plutôt que l'entreprise ou le manager pense que derrière, il y a de la fainéantise, il y a de la désorganisation, c'est aussi de comprendre quels sont les enjeux pour la personne de travailler sur ce modèle-là. Et chez les nouvelles générations, on a beaucoup de personnes qui travaillent plutôt le soir, voire la nuit. Donc ça revisite également la manière dont on propose nos sièges sociaux, nos réunions, la manière dont on cohabite, quoi. Et puis si on fait le lien avec les valeurs, par exemple, si la valeur c'est le plaisir, eh bien on va pas s'entourer de la même tribu. J'ai une amie, par exemple, qui un jour a intégré une start-up. Elle était assistante au niveau des appels d'offres, en fait. Et il y avait une habitude d'afterwork. Toutes les semaines, il y avait des afterworks. Et un jour, elle rentre, elle me dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces afterworks. Je ne veux pas travailler dans une start-up. Je ne veux pas de convivialité. Je ne veux pas sortir avec mes collègues. Alors que moi, je trouverais ça super sympa, en fait.
Ouais.
Et là, on voit bien que c'est pas sa valeur première. Elle, dans son écologie personnelle, elle a besoin de scinder les deux bulles. Sa bulle perso dans laquelle elle navigue et sa bulle professionnelle dans laquelle elle a besoin de concentration et elle n'est pas du tout sur le même schéma. Bah là, typiquement, elle n'était pas dans le bon écosystème.
Ouais,
elle n'était pas respectée dans ses valeurs. Voilà, c'est trois petits exemples.
Ok. Et sur les talents, est-ce que tu as des exemples aussi de singularité?
Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais donner le mien. Je dis souvent que moi j'ai un talent, c'est lire les gens de l'intérieur. Je les vois de l'intérieur avant de les voir de l'extérieur. C'est pas tout à fait vrai parce que en même temps j'ai la lecture du non-verbal, le fait d'être spécialiste sur cette discipline-là, mais y a quelque chose de connecté avec la personne. Je vais pas du tout voir son côté hiérarchique, son pouvoir d'influence, comment elle est habillée, comment elle est coiffée. Tout ça, c'est complètement secondaire chez moi. Par contre, je vais assez rapidement traduire ses intentions, son potentiel. Je vais même pouvoir voir sa capacité à devenir, alors qu'elle-même peut ne pas y avoir accès. Donc, il y a des choses de cet ordre-là. Donc, ça, c'est un de mes talents, par exemple. Et puis, un deuxième, c'est que quand je travaille avec une entreprise, je vois l'écosystème en méta. C'est un peu comme si j'étais au-dessus et je vois tous les enjeux. Je vois que tu te reconnais dans ce talent-là. Mais c'est un petit peu comme un échiquier où je sais que si je bouge ce curseur-là ou ce pion, ça va avoir tel impact. Mais ça inclut les relations, les gens, la stratégie avec les objectifs, les partenaires. Enfin, j'ai vraiment cette vue d'ensemble, un peu comme une vue de haut. Ce sont des talents, et le fait de le dire, ça permet non pas de se positionner en posture haute par rapport à l'autre, mais se dire, moi je suis douée là en fait, c'est là où c'est mon super pouvoir. Mais par contre, je suis une handicapée de l'humour, et je suis une handicapée de plein d'autres choses. Par exemple, j'ai un côté dyslexique, les chiffres, je ne sais pas lire les chiffres, c'est-à-dire que je les vois, mais ils vont traduire des choses qui vont être fausses, ou je ne vais pas avoir la bonne mémoire des chiffres, par exemple. Bien, le fait de le dire, ça permet de s'entourer de personnes complémentaires, et ça permet aux gens de ne pas perdre la face. Si tu viens me titiller avec de l'humour, tu ne vas pas imaginer que ta blague, elle est mauvaise, tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, elle est handicapée de l'humour ». C'est ok, en fait. On se moque pas d'un handicap, tu vois.
Oui, ouais, d'accord. Donc, en fait, ça permet de normaliser, en fait, les forces et les faiblesses, finalement, de les...
De déculpabiliser, ouais. De vulgariser, de donner matière à les évoquer. Et puis, il n'y a pas de super-héros sans super-pouvoir et sans kryptonique, en fait.
Oui.
Donc, il y a le talon d'Achille. Bah, moi, mon talon d'Achille, il est là, il existe. Mm. Et puis, c'est OK, quoi.
Ouais, enfin, c'est pas grave, en fait. Non. Et au contraire, c'est une force de savoir les identifier, les exprimer. Et du coup, ça te permet d'éviter de te retrouver dans des situations d'échec.
Oui. Et puis, quand on est en mode projet, est-ce que... qu'on soit entrepreneur ou collaborateur, aujourd'hui, le mode projet, il est quasiment... on est amené à travailler et à partager des projets avec soit des collaborateurs en interne, soit des partenaires externes. Mm-hmm. C'est très rare d'être complètement solo, ça arrive, mais il y a souvent de l'interaction. Du coup, le fait de mettre sur la table chacun là où on est bon et là où on n'est pas bon, bon, on ne perd pas de temps. On ne va pas me demander de réaliser des choses sur lesquelles j'ai aucune valeur ajoutée, alors que quelqu'un d'autre va le faire très bien. Le sens analytique, le sens du détail, c'est pas pour moi. Moi, j'ai un côté très créatif, je préfère mettre les mains dans la pâte. Donc oui, je pense que c'est plus simple. C'est comme le fait d'être dyslexique. J'ai pas de dysorthographie, donc j'ai pas de difficulté à écrire, mais je sais que quand j'écris avec cœur ou stratégie, je vais faire des fautes d'orthographe. Le fait de le dire à mon partenaire, je suis dyslexique, mais par contre, les mots qui sont choisis, ce sont des mots puissants, parce que j'ai ce sens-là. Mais il y aura probablement des fautes d'orthographe, parce que quand je suis en écriture stratégique, je vois plus les fautes d'orthographe. Bah voilà, on s'arrête plus à un détail qui peut heurter la personne, ouais. Parce que elle, c'est important pour elle, l'orthographe, par exemple.
Ok, super. Et j'aimerais bien aussi que tu, pour terminer, enfin, après on finira sur les trois petits tips, mais qu'on parle, en fait, ensemble de comment assumer sa différence, la valoriser, surmonter les jugements. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, une question sur laquelle j'avais vraiment envie de t'entendre.
Ouais. Je disais, il n'y a pas d'œuvre d'art sans signature. Et je crois que la singularité, c'est sa propre signature, en fait. Et peut-être que la société nous a invités à rentrer dans des cases, surtout chez les HPI, et notamment au féminin, où on a tendance à se mettre des masques de composition. Et c'est regrettable parce que c'est autant de talents qui sont pas, qui restent invisibles en fait, ou qui sont exploités que dans la sphère personnelle. Donc c'est regrettable pour tout le monde, c'est regrettable pour l'individu qui risque de mourir de l'intérieur, ouais, d'avoir ce sentiment, ouais, complètement. Mmh. Et c'est là où on parle de crise, hein, de la quarantaine, de la cinquantaine, ou de bascule complète avec un burn-out ou un état dépressif profond. C'est vraiment dommage. Donc, si on veut se respecter soi et en plus participer à l'épanouissement d'un projet collectif, je crois qu'il faut accepter sa signature. Donc, ça vaut le coup d'aller la chercher, cette signature. Mais la chercher, ça revient un peu au tips qu'on donnait dans le podcast 1, c'est faut apprendre à se connaître et puis apprendre à les communiquer. Et les communiquer sans tabou, en fait.
Mmh. Mmh. D'accord. Ça va quand même complètement à l'opposé aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'est pas si facile que ça, que ça revient quand même souvent dans nos conversations. C'est que nous, on nous a appris complètement l'inverse. On nous a appris
à rentrer dans les cases.
Ben oui, à rentrer dans les cases ou à répondre à une attente.
Ouais. Mais n'oublions pas que nos points de référence, donc nos parents, le système d'apprentissage, ils ont utilisé le langage qu'ils connaissaient.
Oui.
Donc on peut pas leur en vouloir de nous avoir fait rentrer dans les boîtes.
Mais je me rends compte, en fait, c'est plutôt que je me dis, mais quel chemin à parcourir, en fait, quand même.
C'est le chemin
entre ce qu'on nous a transmis et ce qu'on essaye, en fait, de la métamorphose qu'on essaye de réaliser aujourd'hui.
Oui. Et j'utilise pas le mot différence, parce que je trouve que la différence, ça amène encore une connotation un peu négative.
Oui, il y a quelque chose de négatif dans la différence.
Alors que l'unicité, c'est vraiment de voir la personne telle qu'elle est dans son entièreté, avec ses points forts et ses points de faiblesse. J'aime bien utiliser le mot handicap parce que je trouve que ça redonne de la place à toute forme de handicap, visible, invisible, reconnu, méconnu, pour ne pas dire non reconnu, et que pour le coup on est dans une inclusion qui prend en compte la totalité de l'individu avec ce qu'elle propose dans le moment, sur le projet qu'on lui propose également dans le moment, avec les compétences du moment. Et forcément, tout ça continue de grandir, quoi. Tu parlais de métamorphose, mais ça ne s'arrête jamais. Donc ce qui est valable à l'instant peut ne plus être valable au bout d'un moment. C'est ok.
Oui, d'accord. Et donc, pour clôturer ce deuxième épisode, est-ce que tu aurais trois petits tips simples, s'il te plaît, à nous transmettre?
Et bien, le premier, c'est peut-être de se poser la question de savoir là où on est performant et là où on a des points, notre petite kryptonite, en fait. Et ça, on est mieux placé pour le savoir, mais en cas de doute, on peut poser aussi la question à son entourage. Ça, c'est simple. De se faire confirmer. Enfin, ça, c'est simple. Ça peut être plus difficile chez des HPI qui naviguent tellement facilement dans leur talent qu'ils peuvent avoir l'impression que ce n'est pas un talent, que c'est quelque chose qui relève de l'ordre du commun.
Ah,
donc, je fais une petite exception pour les HPI où, effectivement...
Mais d'où l'importance, peut-être, de oser solliciter l'entourage.
Oui, complètement.
Un entourage bienveillant.
Ou un professionnel.
Oui.
L'entourage saura mettre des mots.
Ouais. Mais je pense à l'entourage, même dans le cadre d'un accompagnement avec un professionnel, par exemple avec le bilan de compétences, où souvent c'est une étape, en fait, qui est demandée à la personne qui est accompagnée de soumettre un questionnaire à des personnes de son choix.
Oui. Alors, le bilan de compétences... Je préfère la vision d'un coach qui va travailler à la fois sur les compétences professionnelles, mais le bilan de compétences, il enferme encore un peu trop dans la fiche de fonction, je trouve. Quand je parle d'unicité, on va bien au-delà. Le bilan de compétences ne prend pas en compte l'écologie personnelle, très peu. La manière dont on dort, par exemple.
Okay.
Moi, je dors 9 à 10 heures par nuit. Dès qu'il y a un trouble... du spectre autistique, on sait que le sommeil est très important. Il y a autant besoin de sommeil que de phase active. Donc, je trouve que le bilan de compétences mérite de progresser et d'évoluer, et c'est là où le coach permet de tenir compte d'un ensemble. Mais de manière plus simple, c'est assez facile de mettre en place un 360. C'est quelques questions clés sur les valeurs. Il y a une liste de compétences que l'on reconnaît chez l'autre. De façon de s'exprimer, des petites phrases clés qu'on a envie de dire à la personne, même de manière anonyme, ça c'est facile à monter, gratuitement, c'est facile à faire.
Ouais.
Donc solliciter son réseau, faut pas hésiter, y compris le réseau professionnel.
D'accord.
Les gens avec qui
on travaille, on collabore.
On interagit, exactement. Mm-hmm. Le deuxième petit tips, on l'a beaucoup évoqué dans le premier podcast, c'est cette notion d'agentivité, redevenir en fait acteur, reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, je pense que c'est important, tant dans son planning que dans ses rencontres, dans ses envies. Oui. Donc c'est identifier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, s'entourer des bonnes personnes. Ça veut dire aussi accepter de se désentourer. Je sais pas si ça se dit, mais accepter que certaines relations n'ont plus lieu d'être. Parce que elle ne participe pas à...
Ou plus.
Tout à fait. Ah ouais, et c'est ok avec ça. Alors, pas forcément au fait de grandir, parce que on cherche pas forcément à grandir à tout prix, mais à être bien, à être dans son équilibre, à être respecté dans ce que l'on est. Voilà. Donc c'est important de faire un état des lieux de qui nous entoure et de comment on interagit et pour redevenir un peu, reprendre le contrôle de sa vie. Ouais. De ses actions.
Agentivité. Je connaissais pas ce mot-là, tu vois. Donc, du coup, je suis allée voir la définition. Capacité de l'être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, les autres et son environnement.
Ouais.
Agir de façon intentionnelle. Je trouve ça vraiment bien tourné.
Et intentionnel, on pourrait le substituer à en conscience. Parce que intention, on a une intention. Alors là, l'intention pourrait être reprendre le contrôle de sa vie. C'est déjà une belle intention. Mais en conscience, ça va plus loin. C'est-à-dire que on peut avoir une intention de reprendre le contrôle, mais en conscience, c'est aussi d'accepter le fait de grandir et le fait de reprendre le contrôle, ça veut dire quoi? On n'a pas tous le même degré d'éveil à ce niveau-là. Donc en conscience, c'est de rester connecté à ce qui se passe dans le moment, quand on reprend le contrôle de sa vie, et ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, le
feedback des gens. Choix
exactement.
En fonction de ça.
Tout à fait.
Ouais. Et les assumer.
Exactement. Et puis le dernier tips, qui pour moi est peut-être le plus important, c'est apprendre à communiquer, apprendre à dire. C'est-à-dire que si on fait du développement personnel, qu'on connaît absolument très bien son mode d'emploi, mais qu'on n'arrive pas à le soumettre, à le partager, à le diffuser, et puis de façon enthousiasmante, parce que c'est constructif en fait, ça sert à rien. Et je prends souvent l'exemple de la du collaborateur qui va négocier son salaire. Il passe son entretien annuel, et il va donner plein d'arguments, je suis chouette, j'ai fait tant de dossiers, j'ai plein de qualités, ouais. etc.
Alors, il ressort et son année.
Yes. Et puis on lui dit, t'as demandé ton augmentation? Ah mais non, mais s'il comprend pas que je dois être augmentée, je comprends plus rien. Bah oui, mais si tu lui demandes pas, si tu formalises pas, pour le coup, ton intention d'action, ce que tu attends de l'autre, il y a de grandes chances qu'il n'y a rien qui arrive. Eh bien, c'est la même chose avec son mode d'emploi. Si on ne formule pas, en fait, à l'autre son mode d'emploi, si on ne prend pas le temps de le diffuser, l'autre, il y a très peu de chances qu'il soit capable d'anticiper. Certaines personnes vont anticiper. Les ultra-empathiques, par exemple. Ce qui est le cas chez les HPI où on a cette connexion. Mais dans le milieu professionnel, le manager, est-ce qu'il a le temps d'anticiper, voire de comprendre ce que l'on est devenu dans le moment?
Oui.
Être au bon endroit, au bon moment, avec les compétences.
Et est-ce que c'est sa responsabilité?
Complètement.
Aussi, on peut se poser la question.
Complètement. Et là, merci du rebond, c'est de la responsabilité de chacun de cultiver son bonheur, de faire en sorte d'être à la bonne place au bon moment avec les bonnes compétences, et puis de pouvoir exprimer, partager tout ça, transmettre en fait. Le mot transmettre est peut-être le plus adapté à son environnement. Que ça soit dans un futur poste ou dans son environnement actuel, pour pouvoir éventuellement être force de position et grandir différemment.
Ok, merci beaucoup Vanessa pour ce deuxième épisode. On va clôturer là-dessus et on va poursuivre après sur un épisode 3 qui sera notamment sur l'impact vis-à-vis du marché du travail.
Oui, merci.